même des sujets de leur action. Oui. En raison de leur potentialité. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est un sujet de son action. Dieu est. Donc, il est au-delà du devenir. Il n'est pas sujet. Considérer Dieu comme sujet, c'est déjà une petite concession à Hegel. C'est la confusion de l'être et du devenir. Donc, ça, je crois qu'on peut tous le comprendre assez facilement. Hein. Arriver à défoncer la primauté du devenir en disant que la primauté de l'être n'est pas la primauté du devenir. La primauté du devenir, c'est la matière. La primauté de l'être, c'est l'ousia. Or, l'être et le devenir ne sont pas identiques, et on comprend très bien, parce que ce qui est premier dans l'être implique la détermination, ce qui est premier dans le devenir implique l'indétermination. Et donc le premier dans l'être ne peut pas être le premier dans le devenir. Deuxièmement, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de montrer comment le TST de Ousia n'est pas la forme. Ce qui est premier dans l'ordre artistique, c'est l'eidos, c'est la forme. Ce qui est premier dans l'ordre artistique. En effet, dans l'ordre artistique, tout commence par une idée que je porte en moi, une eidos, une forme que je porte en moi. Tant que vous n'avez pas cette forme en vous, vous ne pouvez rien faire. Et dès que vous avez en vous cette eidos, alors à ce moment-là, vous pouvez commencer à réaliser ce que vous désirez réaliser. Donc ce qui est premier dans l'ordre artistique, c'est bien l'eidos. C'est pour ça qu'Aristote dit: si le monde était une œuvre d'art, la forme, l'eidos, la forme artistique, serait la substance. C'est très fort, ça. C'est très fort contre la position de la phénoménologie contemporaine. La phénoménologie contemporaine considère que le monde est une œuvre d'art. Et dans la mesure où vous considérez que le monde est une œuvre d'art, nécessairement, la forme est première. Elle est ousia. C'est pour mieux répondre. Ça, c'est la première réponse que je vous donne par rapport. Elle est facile. Aristote donne quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe. Parce qu'il veut lutter contre Platon d'une manière très très forte. Or, pourquoi Platon a dit-il que l'ousia est l'eidos? Pourquoi Platon est-il resté à un niveau artistique? Ça, c'est intéressant. Et on comprend très bien que ça a été le gros problème pour Aristote, vous voyez. Le gros problème pour saint Thomas, ça a été de dépasser le manichéisme. Et le gros problème pour Aristote, c'était dépasser le Platon, le platonisme. Vous voyez, dépasser le manichéisme, c'est considérer que la matière n'est pas mauvaise, que la matière n'est pas du non-être, et que la matière n'est pas source de mal, que la matière peut être bonne, elle est en puissance bonne. Bon, ça a été la grande lutte de saint Thomas, ça. Et la grande lutte d'Aristote, c'était d'essayer de comprendre que la forme n'est pas l'absolu. L'eidos n'est pas l'absolu. Pourquoi? Parce que l'être n'est pas l'intelligibilité de l'être. Aristote veut faire comprendre que si Platon a identifié ousia et eidos, c'est parce qu'il a identifié intelligibilité et être. Il a confondu l'intelligibilité et l'être. Or, l'être n'est pas son intelligibilité. Ou plus exactement, l'être n'est pas adéquat à son intelligibilité. Il est plus, il est source d'intelligibilité. Donc, il est son intelligibilité d'une certaine manière parce qu'il en est la source. Mais il est au-delà. L'être est au-delà de l'intelligibilité. Vous pouvez réaliser des formes intelligibles, vous en êtes capable. mais vous n'êtes pas capable de créer. L'homme peut réaliser de nouvelles formes intelligibles, ça c'est sûr, par des relations et par des jeux de relations, mais il ne peut pas créer un nouvel être. L'être a quelque chose qui est irréductible à son intelligibilité, quelque chose qui va plus loin. Alors, pour bien montrer la distance qui existe entre l'ousia et l'eidos, pour bien montrer qu'on ne peut pas confondre l'ousia et l'eidos, Aristote va inventer un terme. Il va inventer le to-ti-en-einai, ce qui n'existait pas chez Platon. C'est très difficile à traduire. Oui, dans le fait d'être, le tien. C'est pas le tiesti, c'est le tien. Très très joli, en mettant le parallèle entre le tiesti et le tien. Quand vous dites qu'est-ce, et puis quand vous, dans le tien, vous dites qu'est-ce qui demeure. Oui, vous retrouvez l'idée de l'ousia de Platon. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qu'il y a en vous qui est au-delà de tout mouvement? Qu'est-ce qui en vous demeure le plus longtemps? C'est ce qui est en vous d'essentiel. C'est ce qui est en vous de premier. Alors, c'est ça qu'on pose la question. Dans le fait d'exister, le tien. Ceci, c'est dans l'ordre de l'intelligibilité. Et c'est pour ça qu'on va montrer que l'ousia n'est pas le totienainan, alors que la forme est le totienainan. Mais c'est par là qu'on montre que l'ousia n'est pas l'ousia. C'est par là qu'on montre que l'ousia n'est pas eidos. Mais on trouve un moyen terme, c'est toujours comme ça qu'on doit faire quand on est en face d'une confusion. Quand vous êtes en face d'une confusion, ou quand vous êtes en face de quelqu'un qui fait des confusions, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de trouver un moyen terme qui est du côté de la réalité qu'on affirme et qui est distinct de l'autre qu'on confond. Platon confond ousia et eidos. Aristote va trouver un moyen terme, le totienainan, qui s'identifie à l'eidos et qui ne peut pas s'identifier à l'ousia. Et par là, on montre que l'ousia n'est pas l'eidos. Très simple comme démonstration, mais c'est très astucieux. Très astucieux. Le totienainai, ce que de fait on va traduire en latin. Quoi? Quid erat esse. Quoi? Quid erat esse. Voilà la traduction littérale. Comme c'est un peu trop long, les noms trop longs, on les simplifie. Alors, quod quid erat esse, on dira quiditas. La quidité. Quiditas en latin, on traduira quidité en français. Et quand vous traduisez quidité en français, vous ne savez absolument pas ce que ça voulait dire. Oui, c'est le petit nom. Il faut être dans la famille pour connaître. Si on n'est pas dans la famille, on ne comprend pas. On ne saisit pas. Alors il faut mettre tous les noms. Alors il faut venir quod, quid, erat, esse. Donc le quod est, ce qui est le quid erat. Oui. Ce qu'il y a d'intelligible dans le fait d'être. Ce qu'il y a d'intelligible dans le fait d'être. Vous voyez qu'en faisant ça, vous montrez la distance entre le fait d'être et ce qu'il y a d'intelligible dans le fait d'être. Et vous montrez, vous formalisez, dans le langage moderne, vous thématisez l'intelligibilité sur le fond de l'être. Sur le fond de l'être, le to-einai, le quod esse, vous formalisez l'intelligibilité. Et par le fait même, vous montrez que l'intelligibilité n'est pas le fond de l'être. Donc, ne s'identifie pas avec le fond de l'être. Puisque le quid erat est enveloppé par le quod esse. le TN est enveloppé par le taux A9.
Très astucieux, ça, il faut le découvrir, ça. Il faut faire ce truc-là. Dans le fait d'exister, vous montrez, vous illuminez quelque chose qui est le fond d'intelligibilité. Et donc vous montrez que le fond d'intelligibilité ne s'identifie pas avec le fond de l'être. Et donc, vous pouvez montrer à ce moment-là que toute forme a une fluidité, c'est très vrai, mais que l'être est au-delà de la fluidité. Et donc, je ne peux pas identifier Ousia et Aïdos. Voilà le but. Si je ne peux pas identifier Ousia et Aïdos. Est-ce que vous saisissez bien ça? Ça, c'est assez, assez chinois, n'est-ce pas? C'est difficile à bien saisir. Parce que c'est grec, donc c'est chinois. C'est assez difficile à saisir. Mais c'est très intéressant à saisir. Parce qu'il y a quelque chose de fondamental à saisir. Il faut toute la subtilité du grec et du chinois pour saisir-là. Ils sont bien plus subtils que nous. Voilà. Bien plus, bien haut, vont beaucoup plus loin. Et c'est très subtil. Nous, on est habitués, nous, depuis Descartes, de confondre l'intelligibilité et l'être. Et on ne voit même pas. Parce que Descartes confond le réel et l'intelligible. C'est ça qui est terrible. Et c'est en ce sens-là qu'on est prêt à recevoir le marxisme. Descartes désarme en face du marxisme. Tandis que quand vous avez saisi la subtilité de l'intelligibilité par rapport au fond de l'être, alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas tomber dans le panneau. Impossible. Parce que vous comprenez que ce que vous comprenez n'est pas la réalité. C'est quelque chose de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Alors à ce moment-là, vous ne pouvez pas entrer dans la dialectique marxiste qui prétend que le mouvement de l'intelligence, c'est le mouvement du réel. C'est très gros, hein, de dire que le mouvement de l'intelligence, c'est le mouvement du réel. Mais ça, à partir de Descartes, vous êtes désarmé, vous pouvez rien dire. Un cartésien ne peut pas répondre au marxisme. Ça explique, du reste, comment les intellectuels deviennent si vite marxistes. On se dit, mais comment se fait-il? On dit, c'est la générosité. Mais non, c'est pas la générosité, c'est leur manque d'intelligence. C'est totalement différent. C'est pas la générosité du tout. Mais c'est leur manque d'intelligence, c'est parce qu'ils n'ont pas saisi avec suffisamment d'acuité, parce qu'ils ont été désarmés par Descartes. Ils n'ont pas saisi avec suffisamment d'acuité que le réel existant n'est pas identique avec ce qu'ils comprennent de ce réel. Un paysan comprendrait ça tout de suite. Mais un intellectuel, non. Parce qu'il est désarmé. C'est très très curieux, mais ça c'est un phénomène qu'on voit, ça. Descartes nous a préparé le lit du marxisme. Vous voyez? Parce qu'il a identifié le réel et l'intelligible. Et si vous identifiez le réel et l'intelligible, forcément, c'est Platon, vous identifiez Ousia et Aïdos. Et en identifiant Ousia et Aïdos, vous faites de notre monde un monde artistique. Et si vous faites de notre monde un monde artistique, vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Et vous pouvez le manipuler par le point de vue de la dialectique. C'est artistique la dialectique. C'est un art politique extraordinaire. Vous le manipulez comme vous voulez. Et si vous maintenez justement l'identification de l'Eidos et de l'Ousia, alors vous aboutissez à ça. Alors Aristote a pris la petite bombe, vous savez, les grands chars, on peut les faire sauter par une petite bouteille d'essence, four en dessous, et bien, alors ça fait tout sauter. Alors ça fait sauter tout. Et bien c'est ça le Totienheim, le grand char d'assaut platonicien ou marxiste. Ce qui revient au même ici. Ce qui revient au même. C'est, vous le faites sauter en voyant que l'Ousia n'est pas l'Eidos. L'Ousia est première dans l'ordre de l'être. Elle n'est pas première. Elle est première dans l'ordre de l'être. Elle est donc au-delà de la primauté du premier dans l'ordre de l'intelligible. L'Eidos est première dans l'ordre de l'intelligible, comme le Totienheim. mais il n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Ensuite, bon, ça c'est le gros morceau, hein. C'est la petite bouteille qui fait sauter le char. Non, c'est le gros morceau. Et là, il faut bien comprendre que c'est le tokyénénal qui permet de faire cette séparation entre la forme et l'idée. L'être est fondamental par rapport à l'intelligibilité. L'être est fondamental par rapport à l'intelligibilité. L'être n'est pas uniquement relatif à mon intelligence. L'être, il est en lui-même, indépendamment de mon intelligence. Et c'est pour ça que l'être mesure mon intelligence, alors que l'intelligibilité de l'être est toute relative à mon intelligence. Et je suis moi-même lié à cette intelligibilité. Mais l'être en lui-même, dans ce qu'il a de profond, est premier. Il peut être la mesure de mon intelligence. Il n'est pas totalement relatif à mon intelligence. Alors, je peux comprendre très facilement, alors c'est très facile, que le l'ousia, le tiesti de l'ousia n'est pas l'universel. C'est très facile à comprendre ça. Parce que l'universel, c'est ce qui est attribué à plusieurs. Or, l'ousia, c'est précisément ce que chacun est en lui-même. Mon ousia n'est pas la vôtre. Mon ousia n'est pas la vôtre et votre ousia n'est pas la mienne. Eh bien, malheureusement pour moi, mais ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Mon ousia n'est pas attribuable à d'autres, tandis que l'universel est toujours ce qui est attribuable aux multiples, à chacun. Et pour le genre, c'est facile à comprendre aussi. L'ousia ne peut pas être genre, parce que le genre c'est l'universel, premièrement. Et que le genre, c'est un tout attribuable à beaucoup. Le genre se prend du côté de la matière, donc de l'indétermination. Or, justement, l'ousia implique en elle-même une détermination. Donc voilà le bulldozer aristotélicien. C'est là où vous voyez mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. D'avoir saisi que l'ousia n'est ni. Quatre négations. Bon, une fois que vous avez déblayé le terrain, vous pouvez maintenant revenir à l'expérience et dire qu'est-ce que c'est que l'ousia. L'ousia est principe dans l'ordre de l'être, l'ousia est cause dans l'ordre de l'être, et donc pour saisir ce que c'est que l'ousia, il faut revenir à ce qui est. Et revenir à ce qui est pour saisir ce qu'il y a de premier dans l'être. Or, toutes les réalités que j'expérimente sont complexes. Quelle est leur ousia ? Leur ousia, c'est ce qui explique, dans leur complexité et au-delà de leur complexité, ce qui font que ces réalités sont unes. Elles existent dans la mesure où elles sont unes. Donc, elles sont dans la mesure où elles sont unes. Devant la complexité, je cherche quel est le principe de l'unité dans l'ordre de l'être. Ce qui est au-delà de la complexité. Et découvrant ce principe d'unité, je dis la substance, c'est ce principe au-delà de la complexité, au-delà de la diversité. Ce principe dans l'ordre de l'être. Nous reviendrons là-dessus hein, demain, parce que je reprendrai l'induction d'une autre manière pour que vous compreniez mieux. Parce que c'est important à bien saisir. suite à cette question, le véritable jugement d'existence sur moi me fait-il découvrir obligatoirement que l'être en moi est autre que moi? Si oui, n'est-ce pas angoissant de découvrir quelque chose d'autre en moi que moi? Et comme je ne connais pas cet autre, je ne peux pas le saisir, ne serait-ce pas par là qu'on a l'impression de néant, de vide, qui n'est en fait que l'autre ou autre, avec un grand A, qui est au-delà de moi. Faisons attention, hein. Le véritable jugement d'existence sur moi me fait-il découvrir obligatoirement que l'être en moi est autre que ma pensée, pas que moi? C'est ça qu'il faut découvrir, hein. C'est « je pense ». Donc, je suis. Dans le jugement d'existence, j'ai conscience que je pense, j'ai conscience que je vis. Et quand je dis j'existe, je suis, j'affirme quelque chose qui est au-delà de ma pensée. C'est ça qu'il faut saisir. Quelque chose qui est au-delà de ma pensée, mais ce n'est pas autre que moi. Parce qu'autre que moi, alors ce serait justement, alors là je suis tout à fait d'accord, ce serait tout à fait l'abîme. Donc il y aurait un trou qui habite en moi, un abîme qui habite en moi qui ne serait pas moi. Mais quand je dis je suis, c'est bien moi dans ce qu'il y a de plus profond en moi. Mais ce n'est pas ma pensée. Et autrement dit, je découvre qu'il y a en moi un au-delà de la pensée. Et que ma pensée n'est pas tout moi-même. Que je ne peux pas me définir par la conscience que j'ai de moi. La conscience que j'ai de moi n'est pas entièrement moi. Ça, c'est très important de bien comprendre ça. C'est bien d'avoir posé la question pour qu'il n'y ait pas de confusion, hein. Le jugement d'existence que je porte sur moi, c'est tout simplement le dépassement par rapport à ma connaissance. Par rapport à la conscience que j'ai de connaître ce que je suis et la conscience que j'ai de pouvoir m'aimer. Je m'aime, moi-même. J'ai conscience de pouvoir m'aimer. Et cette conscience de l'amour que j'ai de moi n'atteint pas pleinement et totalement ce que je suis. La preuve, c'est que à peine j'ai dit que je m'aimais, je suis capable de faire un acte que je réprouve en disant non, ça c'est pas moi, et c'est pourtant moi. C'est vrai, on a la tentation de dire ça. J'aime, je m'aime. On s'aime tous, du moins on doit tous s'aimer. On doit tout tendre à s'aimer quand même. Et alors, en même temps, on s'aperçoit qu'on est capable de faire des actes qui ne correspondent pas du tout à l'amour qu'on a sur soi. Donc, on a, vous voyez, cette conscience de quelque chose qui est au-delà de ma propre conscience. Et c'est ça le jugement d'existence, hein. C'est pas autre chose que cela. Mais c'est moi, c'est mon exister. C'est pas du tout l'autre. Parce que si c'était l'autre, alors ce serait tout de suite la saisie de Dieu. Et dans mon jugement d'existence, je saisirais Dieu. Parce que l'autre ne peut être que Dieu. Plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Et c'est en ce sens-là que Dieu est plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Parce que Dieu, lui, est présent à ma connaissance, et il est présent à mon être. Il est présent à tout ce que je suis. Dans la totalité même de cette présence. Vous voyez, Dieu est au-delà de la distinction connaissance-existence. Connaissance-être. En Dieu, l'être et la connaissance, en Dieu, l'être et l'amour ne font qu'un. Mais pas en moi. C'est ce qui fait mon désespoir. c'est un fait, c'est que mon être et ma connaissance ne sont pas identiques. Et je ne serai jamais d'une lucidité absolue vis-à-vis de moi-même. J'aurai toujours en moi une certaine obscurité que je porte en moi. Et c'est pour ça que les autres pourront toujours m'éclairer. Parce que les autres ont sur moi un autre regard que j'ai sur moi. Ils me voient de l'extérieur. Et me voyant de l'extérieur, ils ont donc une connaissance, j'allais dire, sur mon exister, antérieure à la conscience que j'ai de moi-même, d'une certaine manière. Oui. C'est en ce sens qu'on dira que les autres ont une connaissance objective, plus objective sur moi. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai une connaissance objective sur moi qui est parfaitement vraie. Mais c'est sûr que je suis toujours un peu encombré par la conscience que j'ai de mon moi. Il faut le dépasser. Ce n'est que le jour où on se dépasse qu'on est libéré de soi. Tant qu'on ne s'est pas dépassé, on ne s'est pas libéré de soi. C'est en ce sens que le jugement d'existence nous aide à nous libérer. Parce qu'il nous fait comprendre que notre être est plus que la conscience que j'ai de ce que je suis, de moi-même. Si c'est compris, j'espère que c'est compris, parce que c'est, ça c'est très important. Il ne faudrait absolument pas qu'il y ait là de petites fautes, parce que ce serait... Alors le jugement d'existence serait source d'angoisse, alors que le jugement d'existence doit être source de stabilité. Il doit être pas, doit nous faire toucher le roc. Et le roc, il est en nous. Hein. C'est bien évident. En nous, il y a quelque chose de Dieu. Immédiate, notre existence, notre être. Et notre être, c'est du roc. Pour nous, comme pour les autres. C'est là où je suis directement en dépendance de Dieu. Et c'est en ce sens-là que je dis que c'est du roc. Tandis que ma conscience que j'ai de moi n'est pas immédiatement dépendante de Dieu. Vous comprenez bien. C'est le petit-fils de Dieu. Ce n'est pas immédiatement. Mon existence est plus proche de Dieu que ma conscience que j'ai de mon existence. C'est ça qu'il faut essayer d'arriver à saisir. Et c'est pour ça que c'est nécessaire ce jugement d'existence, pour me dépasser. Dans ma conscience, je ne découvrirai jamais Dieu. Cherchez bien, vous ne découvrirez pas Dieu dans votre conscience. Votre conscience, c'est vous. Alors vous êtes peut-être génial, vous avez des possibilités infinies, c'est très vrai, mais ce n'est pas Dieu. Vous restez dans l'ordre de l'intentionnalité. Et Dieu n'est pas dans l'ordre de l'intentionnalité. Dieu est dans l'ordre réel. Oui, c'est très important ça, parce que ça nous fait comprendre comment la réflexion sur une intériorité peut nous laisser dans l'imaginaire. On peut creuser un puits imaginaire infini et dire, mais je cherche, je ne trouve jamais Dieu dans ce puits. Et pourtant il est profond. Oui, mais il reste imaginaire. Donc Dieu n'est pas là. Je peux avoir une pensée extrêmement profonde et ne pas découvrir Dieu dans la conscience de ma pensée. Un matheux qui va très loin dans sa réflexion mathématique ne découvrira jamais Dieu. Dieu n'est pas dans l'être mathématique. Dieu n'est pas dans l'être logique. Dieu n'est pas dans l'être intentionnel. Dieu est au-delà. Dieu, je l'atteins par l'exister actuel. C'est là la dépendance immédiate à l'égard de Dieu. Tout le reste est petit-fils. Et comme il y a un petit intermédiaire qui est moi, ce moi peut me tromper. C'est important, vous voyez, c'est ce qui fait comprendre pourquoi on fait de la métaphysique, hein, c'est pas pour autre chose. On fait de la métaphysique pour redécouvrir la trace de Dieu immédiate dans la réalité. Et si je recherche la substance, c'est pour m'approcher de Dieu. Puisque la substance n'est pas au niveau de l'intentionnalité, mais au niveau justement de ce qui est. Si la substance était dans l'ordre de l'intentionnalité, je découvrirais ce qu'il y a de premier dans ma connaissance. Qu'est-ce qui est de premier dans ma connaissance? Il y a l'universel qui est premier, ce serait intéressant de bien comprendre les premiers que nous avions essayé de saisir hier. Dans ma conscience, qu'est-ce qui est premier? Je dis, dans la réflexion sur ma conscience, si poussée qu'elle soit, je ne découvrirai jamais Dieu. Il faut dépasser la conscience que j'ai de mon activité. Pour découvrir l'essai, je suis.
je suis est au-delà de ma conscience.
Mais c'est moi. C'est pas le moi conscient, c'est le moi existant.
Comprenez bien.
C'est le moi existant. C'est votre personne, tout simplement. Votre personne, c'est pas votre conscience. Vous voyez toutes les confusions qui ont été faites au moment où on a parlé de l'avortement. On a dit notre moi personnel, c'est notre conscience. Mais non, c'est votre exister. La personne, c'est l'exister, en premier lieu, fondamentalement. C'est là votre personne, je suis. Et puis, vous avez conscience d'exister. Mais votre conscience d'exister, si loin que vous poussez, vous n'arriverez jamais à trouver Dieu. Vous voyez, l'erreur de Feuerbach. Je regarde l'infini de ma conscience, et je dis, cet infini, c'est moi, ça ne peut pas être Dieu. Et il a raison. C'est-à-dire que l'infini de la conscience, c'est vrai, la conscience a quelque chose d'infini. Il y a une espèce d'abîme dans la conscience. Il y a un abîme. Il y a un infini, vous ne saisissez pas la limite. Vous pouvez toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Donc, mais j'ai un infini de la conscience. Cet infini de la conscience, mais ce n'est pas Dieu, cet infini de la conscience. Dieu, c'est l'infini dans l'ordre de l'être. Ce n'est pas l'infini dans la conscience. Oui, alors, cette conscience, et c'est ça qui donne l'angoisse, hein, c'est cet infini dans la conscience. Ça, c'est très vrai. Cette espèce d'abîme que vous portez en vous. Vous portez en vous un abîme intentionnel. Alors, le jour où vous avez découvert cet intentionnel, vous quittez votre angoisse. Mais tant que vous n'avez pas découvert cet intentionnel, et vous croyez que c'est réel, vous êtes angoissé. Parce que vous ne rejoignez pas le réel. Et cet abîme que vous portez en vous, cet abîme intentionnel que vous portez en vous, du côté des possibles, aussi bien affectifs que du côté intelligible, cet abîme que vous portez en vous, cet infini intentionnel que vous portez en vous, mais il n'y a pas de frontière. Vous ne trouverez jamais le roc. Jamais. Et donc, c'est mouvant. Vous pouvez remonter à l'infini dans l'ordre de la conscience. Vous pouvez remonter à l'infini. Oui.
On s'est demandé justement dans un cours avec le Dieu pourquoi il y avait un infini dans la conscience et qu'elle disait ça vient de Dieu. Alors tout il vient
c'est
l'infini.
C'est sûr qu'il vient de Dieu, mais c'est petit-fils de Dieu. C'est pas directement Dieu. Dieu ne crée pas immédiatement l'infini de la conscience. Il crée un être spirituel qui est capable de creuser un infini intentionnel. Et c'est votre construction, ça. C'est pas Dieu qui fait ça. Dieu est plus simple. C'est parce qu'on est esprit. Parce qu'on est esprit, ça c'est propre de l'esprit. C'est l'esprit qui est source de cette conscience infinie. C'est bien. C'est l'esprit qui concentre du côté de l'intelligence et du côté de l'amour. C'est pour ça, tant que vous ne rejoignez pas le réel, vous pouvez tout le temps, tout le temps, tout le temps critiquer indéfiniment. Oui, parce que vous faites une petite image, intentionnellement, vous voyez, de Miss Idéal, du monastère idéal, d'une vocation idéale. Et vous n'êtes jamais, jamais satisfait. Et vous ne le serez jamais, et vous ne découvrirez jamais Dieu. Ce que vous faites, c'est la même chose. Miss Idéal, monastère idéal, c'est la même chose. Alors, on remonte indéfiniment, on remonte indéfiniment. Dès qu'on découvre Dieu, on voit que tout ce qui est créé est limité. Alors on ne cherche plus Miss Idéal. On cherche Dieu. C'est pas tout à fait la même chose. On ne cherche plus le monastère idéal, on cherche Dieu. À travers le monastère. À travers des murs chaotiques. À travers... Ça n'a pas d'importance. On a la stabilité au-delà de ce que nous avons, nous, forgé comme un idéal. C'est capital, ça, c'est là le repos. Tandis qu'autrement, on est toujours dans le désert. Que vous avez 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, c'est la fille. Hein. Parce que c'est une génération. Donc c'est la fille. Et vous êtes dans le désert, indéfiniment. Pas le vrai désert, hein, le désert que vous avez construit. Parce que quand on découvre Dieu, on découvre le vrai désert. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est que tous les mots, enfin, tous nos mots peuvent être piégés là-dessus. Ça qui est effrayant. Tous nos mots peuvent être pris de ce côté-là. Et on peut tout recevoir de ce côté-là.
C'est pour ça que l'infini des infinis au niveau des mots, c'est non, non. Parce que vous, au niveau des mots, vous ne pouvez pas voir si vous êtes dans l'infini de la conscience ou dans le réel. L'infini réel, c'est Dieu. Et puis l'infini intentionnel, c'est coton. Bulle de savon. Elles sont très très belles, hein. C'est merveilleux, extraordinaire. Tous les reflets de... Vous voyez, c'est les reflets de l'arc-en-ciel. Le véritable arc-en-ciel, c'est Dieu autour du trône de Dieu. Mais il y a des reflets de l'arc-en-ciel dans les bulles de savon. Et alors ça, c'est l'infini. L'infini. Et plus il y en a, mieux ça vaut. Ça danse en plus. Tout d'un coup, ça éclate. Puis après, il y en a un autre qui prend. Ça éclate. Et infini. C'est tout à fait ça. C'est le jeu des bulles de savon. Et alors, c'est l'infini que vous portez en vous. Et vous ne pouvez jamais être satisfait à ce niveau-là, parce que vous portez autre chose. Et Dieu, c'est le créateur de l'être, que je rejoins par le jugement d'existence. C'est en ça, vous voyez, que je ne peux pas rejoindre Dieu directement par mon esprit. Je voudrais bien, ce serait tellement plus beau. Ce serait tellement plus beau de pouvoir rejoindre directement Dieu par mon esprit. Vous voyez, ça c'est le rêve de l'ontologisme. C'est le rêve de l'idéalisme. Le fruit est beau. Alors vous croyez rejoindre Dieu directement par votre esprit en disant « C'est bien plus noble l'esprit que la réalité existante. » C'est évident. L'esprit, c'est une manière la plus noble qui soit d'exister. Mais c'est une manière d'exister, ce n'est pas l'être. Il n'y a qu'en Dieu où esprit et être font qu'un. C'est terrible comme purification, hein. C'est rude, c'est très très rude. Parce que ça nous fait comprendre que, de fait, c'est vrai. Ce n'est pas. Alors, je suis au point de vue philosophique, faisons attention, hein. Je suis au point de vue philosophique. Parce qu'au point de vue mystique, donc au point de vue surnaturel, c'est différent. Par la foi, je rejoins directement Dieu. Par la grâce, je suis en Dieu. Oui. Donc, ne confondons pas, hein. Ne confondons pas l'esprit et la grâce. La grâce, participation formelle à la nature de Dieu. Et donc, si je réfléchis sur la grâce, je suis en Dieu. Mais ça, c'est ma réflexion surnaturelle. Ce n'est pas ma réflexion humaine. Alors, il faut bien distinguer. La réflexion surnaturelle de la foi, par la foi, j'adhère immédiatement en Dieu. Ça, c'est le privilège du croyant. Mais la conscience psychologique que j'ai, ma conscience intellectuelle que j'ai, eh bien, celle-là est infinie. La foi me fait adhérer immédiatement au roc. Et je me mets mon repos en Dieu. Oui. Donc, les 40 ans au désert, c'est parce que je ne vis pas assez de la foi. Et que j'oublie l'adoration. Alors, 40 ans au désert. Mais alors, ce désert, justement, avec tous les tournants, les méandres, le labyrinthe extraordinaire du désert. Non, alors, ça, c'est les 40 ans. Il y a toujours les deux en nous, c'est ce qu'il y a toujours, c'est pour connaître. Je ne peux pas supprimer d'un seul coup cette conscience en disant je vais supprimer ça, je vais devenir bête, et donc je serai croyant parfaitement, parce que je serai bête, il n'y aura plus de danger de m'enfouir dans le... Non, pas du tout. Il faut maintenir cette conscience que nous avons, mais la dépasser tout le temps. La dépasser par le jugement d'existence, et par le jugement d'existence, je suis tout proche de la foi. C'est par là que j'assainis le terrain. On assainit le terrain par le jugement d'existence. C'est très très curieux ça. Et c'est vrai, on assainit le terrain. Tandis que quand je reste dans cette conscience infinie, et ça, c'est comme nous avons 4 siècles là-dessus, hein. C'est Descartes qui a fait ça. De commencer par la conscience et de croire que j'atteins Dieu par l'esprit, directement. J'ai l'idée d'infini, donc Dieu est présent. Dieu n'est pas présent dans l'idée d'infini. Parce que d'abord, vous n'avez pas d'idée d'infini, premièrement. Vous avez une nostalgie d'infini, et Dieu n'est pas dans la nostalgie d'infini. Parce que Dieu n'est dans aucune nostalgie. Les nostalgies, ça, c'est la soif du désert, c'est le retour sur nous. Dieu n'est pas dans une nostalgie, il ne peut pas. C'est Dieu, il est. Alors c'est dans la réalité que nous découvrons Dieu, dans un réalisme profond. Ce n'est pas du tout dans les bulles de savon, qui sont toujours un peu des nostalgies. Oui. Donc, voyez, ça, c'est très, très important de saisir ça. Donc, là, il faut... C'est vrai que ce n'est pas commode, parce que nous portons les deux choses en nous,
et que notre domaine intentionnel, c'est nous, alors nous l'aimons toujours beaucoup, parce que c'est nous, ça provient de nous. Tandis que notre être, il ne provient pas de nous. Ça veut dire qu'on est toujours un peu étranger dans l'être. C'est vrai, parce que ça vient de Dieu. À la fois, c'est beaucoup plus nous que tout le reste, mais en même temps, c'est pas nous, parce que ça nous renvoie à autre chose. C'est par l'exister que je peux remonter jusqu'à Dieu. Et vous voyez, c'est pour ça que la recherche de la substance est importante, parce que ce n'est pas rechercher ce qu'il y a de premier dans l'ordre de la conscience, mais ce qu'il y a de premier dans l'ordre de l'être. Alors, je disais, qu'est-ce qui est premier dans l'ordre de la conscience? Ce que premier dans l'ordre de la conscience, c'est le concept. Et le premier, ce qui est dans la conscience, c'est l'universel. Donc, c'est les idées et c'est l'universel. Voilà ce qui est le premier. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas un concept. Et ce qui est premier dans la conscience, c'est le concept, ça c'est sûr. Je ne peux pas avoir conscience sans concept. Et le concept a un mode universel. Donc, c'est ce qui est premier dans la conscience. Et l'universel, il est quasi infini. Puisque le concept est universel, vous voyez, il est source d'infini. Parce que qui dit universel dit d'une certaine manière, quelque chose d'infini. C'est ça qui est très curieux. Parce que vous ne pouvez jamais, vous voyez, alors on voit très bien la nostalgie de Hegel qui veut faire un concept universel concret. Donc, rejoindre l'exister par l'universel. Et c'est toute la philosophie hegelienne. En réfléchissant sur cette nostalgie d'infini, je veux rejoindre Dieu. C'est la même nostalgie que Descartes. Oui, c'est exactement la même. Là, ça, ce point de vue-là, c'est de Descartes à Hegel, on sent que toute la philosophie a été contaminée à partir de là. Notre philosophie occidentale, de Descartes à Hegel. Alors, avec Hegel, puisque ça pousse très loin, c'est l'éclatement. Alors, on voit les applications avec le marxisme, avec toute la phénoménologie, on voit toutes ces applications. Et nous, nous sommes au-delà, du moins. Nous désirons nous mettre au-delà et tout reprendre. Mais c'est pas commode, parce que de fait, on vit dans ce climat. Dans ce climat qui fait que l'exister comme tel est caché par l'intentionnalité. L'intentionnalité a pris une telle place dans notre vie intellectuelle, a pris une telle place, la conscience a pris une telle place que la conscience fait que même des théologiens définissent la personne par la conscience. Et des thomistes. Alors, vous voyez ce que c'est. Hein. Alors, les non-thomistes, alors, vous voyez ce que c'est. Mais même ceux qui ont étudié saint Thomas arrivent à dire la personne, c'est la conscience. Ça a été écrit. Ben, c'est invraisemblable. Ça prouve que l'intentionnalité a tout pris. Et cache le réel. C'est comme si vous disiez, moi, je me définis par ma conscience. Et quand vous dormez, on a le droit de vous couper la tête, parce que c'est plus vous. C'est vrai, ça, c'est des choses très simples. Quand vous dormez, vous avez encore conscience. Hein, c'est plus vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, mais c'est pas votre conscience. C'est une vie très secondaire. Hein. Vos rêves, c'est pas vous. Si vous vous identifiez à vos rêves, vous iriez loin. Prenez ce que vous... On ne peut pas s'identifier à ses rêves. On ne peut pas. C'est ma conscience que j'ai actuellement de faire telle ou telle chose. Mais même cette conscience que j'ai de faire quelque chose, ma conscience de mon devoir, ma conscience de mon effort, ce n'est pas moi. Vous voyez? C'est quelque chose qui vient de moi. C'est très important. C'est la fine pointe de mon esprit. Mais c'est quand même pas moi. Et le rêve, c'est les retombées atomiques. Oui, c'est la retombée atomique, les rêves. Vous avez fait ça, c'est très net. C'est la, vous avez fait un très grand effort durant la journée, la retombée atomique pendant la nuit. C'est tout de suite. Et alors vos rêves, à ce point de vue-là, ce serait très intéressant, si on avait le temps, n'est-ce pas? Parce que c'est intéressant, les retombées atomiques. Mais c'est anarchique, parce que ça n'a plus la finalité. Oui. Alors on a les retombées atomiques. Alors les retombées atomiques, ce serait de regarder... C'est très curieux. C'est ce qui n'a pas été entièrement assimilé. Donc c'est les retombées atomiques. Des choses secondaires. Et alors c'est un peu anarchique. Mais je comprends très bien qu'on puisse, dans les, dans les, voyez, dans les rêves, vous retrouvez des tas de choses. C'est jamais très sûr. C'est jamais très sûr. C'est comme les sorciers dans les bars à café. C'est la même chose. Découvrir quelque chose de particulier. Alors, on en découvre certaines choses, oui, des échos, mais pas plus. C'est les retomber. Il n'y a plus de substance. Il n'y a plus de noyau qui ordonne. C'est nécessairement anarchique, les rêves. C'est très, très curieux. Ça ne peut pas être autrement. Et je dirais, plus on a été tendu durant la journée, tendu, dans le bon sens, tendu, plus les rêves seront des choses qui seront des reflets. C'est pas plus que ça. Bon. Alors maintenant, je crois qu'on peut continuer sur l'induction. Mais c'était bien de faire cette remarque, parce que ça, c'est quand même très important. Bon, alors nous allons continuer l'induction. J'ai essayé hier de vous rappeler la position d'Aristote très rapidement, mais quand même le livre Zeta, hein, c'est quatre négations qui préparent l'induction. C'est important étant donné qu'il s'agit justement de montrer que la substance ne peut pas être sujet, qu'elle ne peut pas être la forme, qu'elle ne peut pas être l'universel, qu'elle ne peut pas être le genre. Ce qu'est la substance. Et alors là, on voit tous les premiers. Il est toujours important de montrer que la substance est première dans l'ordre de ce qui est. Donc, dans l'ordre existentiel. Ou existentiel.